Artisan de paix. Artisan de paix, une réflexion autour de la non-violence, guidée par Yves Ardourel.
Dans le journal La Croix du 22 octobre, un article. Manifestation pro-palestinienne à Paris. Soutenir la Palestine ne veut pas dire soutenir le Hamas. Extrait. Ce dimanche 22 octobre, un appel à manifester pacifiquement avait été lancé par une quarantaine d'associations. Principale revendication, que la France demande un cessez-le-feu immédiat. Plusieurs milliers de personnes ont répondu présent. La manifestation est un des moyens de l'action non violente et elle est utile. N'oublions pas que le droit de manifester est la marque d'un pays démocratique. Nous savons aussi que toute manifestation ne répond pas forcément au principe de la non-violence. La manifestation est non-violente quand l'objet est clairement identifié. Une injustice, une loi discriminatoire, comme lors de l'apartheid en Afrique du Sud, avec une affirmation absolue du respect des personnes et le refus de répondre à toute provocation éventuelle. La manifestation non-violente est efficace, mais elle demande de la détermination et de la persévérance. Pensons aux manifestations organisées par Martin Luther King, les fameuses marches de 1965 en Alabama, durement réprimées par les policiers et leurs chiens, qui ont contraint le gouvernement des États-Unis à prendre des mesures pour le respect des droits civiques. Manifester pour demander l'arrêt des bombardements qui martyrisent la population de Gaza est utile et sûrement nécessaire. Le pape, ce jour-là, avait appelé une nouvelle fois à la fin des violences en Israël et en Palestine. Chaque guerre en ce monde est une défaite. Et à la fin de l'Angélus, il avait lancé « Frères, arrêtez-vous, arrêtez !» Les manifestations pour sauver le peuple de Gaza prolongent peut-être cet appel. Comme invité aujourd'hui, nous recevons Frédéric Rognon, pasteur de l'Église protestante unie de France, professeur de philosophie à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Vous êtes aussi directeur de publication de la revue Foi et Vie et vous vous êtes engagé dans la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto dans les années 90. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Parmi vos thèmes de recherche, il y a violence, non-violence, gestion des conflits, études de l'œuvre de Lanza del Vasto. Et donc, pour commencer cette série d'entretiens, peut-être une double question. Que représente pour vous la non-violence et comment se trouve-t-on engagé dans ce type de réflexion ?
Alors, la non-violence, c'est un terme qui prête à beaucoup d'interprétations. Mais pour ma part, je dirais que c'est une manière d'abord de dire non à la violence, quand on voit la violence qui déferle dans le monde et puis dans nos vies aussi, dans nos vies quotidiennes. Voilà, c'est une réponse qui a son efficacité, qui a son intérêt et qui peut devenir un mode de vie, un style de vie. Donc la non-violence, c'est une recherche de solutions qui évite toutes les dérives liées à la violence. Alors, mais je dirais aussi que c'est d'abord une quête personnelle qui peut ensuite s'incarner dans la vie quotidienne et dans des engagements publics.
Comment un professeur de philosophie se trouve engagé dans ces histoires-là ?
Alors, je pense que c'est surtout par des rencontres, par des témoignages de personnes qui vivent déjà la non-violence, qui sont engagées. En tout cas, c'était mon cas. J'ai rencontré des personnes qui m'ont expliqué qu'il y avait d'autres solutions que la violence ou que la passivité, parce que la non-violence n'est pas du tout la passivité. Donc il s'agit ni de répondre aux coups par les coups, ni de ne rien faire, mais d'agir dans le respect absolu de ceux qui nous font du mal ou nous ont fait du mal. Et par ces témoignages, par ces rencontres, eh bien, j'ai attrapé le virus, en quelque sorte, de la non-violence. Je me suis dit, là, il y a quelque chose d'intéressant. Quand j'étais adolescent, hein, donc ça remonte déjà à un certain nombre d'années. Et depuis, ben, je ne cesse de réfléchir, de lire et d'expérimenter Ça a été notamment le cas dans la communauté de l'Arche que Lanza del Vasto a fondée et dans laquelle je me suis engagé dans les années 90, comme vous l'avez rappelé, vivre la non-violence au quotidien et puis essayer de résoudre les conflits par des solutions qui respectent tout un chacun.
Donc, on voit bien un engagement de toute la vie. Et comment la philosophie se saisit, comment le professeur de philosophie se saisit de cette question-là? Qu'est-ce que la philosophie, est-ce que c'est plus que la non-violence, c'est plus qu'une action, c'est aussi une réflexion. Et la philosophie, comment, d'un point de vue philosophique, on aborde la question de la non-violence?
Ah ben, elle est abordée par un certain nombre de philosophes tout au long de l'histoire de la philosophie, une manière de trouver des solutions à tous les maux dont souffre l'humanité, c'est vieux comme le monde. Et déjà, bon, je peux remonter à Socrate qui cherchait à ne pas rendre le mal pour le mal, mais en préférant toujours subir que commettre l'injustice, et qui cherchait des moyens de témoigner d'autres solutions. Alors après, depuis Socrate, nous avons eu un certain nombre de figures philosophiques et évidemment spirituelles et religieuses. On pense à Gandhi, on pense à Martin Luther King, qui ont non seulement réfléchi, mais qui ont mis en pratique des solutions qui se sont avérées, pour une bonne part d'entre elles, tout à fait efficaces. On sait que Gandhi a quand même obtenu des résultats tout à fait considérables par la non-violence, et Martin Luther King également. Donc ça, ce sont des grandes figures qui, pour le philosophe, font penser, mais invite aussi à agir, à conformer sa vie à ses convictions.
Et en tant qu'enseignant, que professeur, quand vous abordez, quand vous présentez ces notions philosophiques de la non-violence, comment c'est reçu par les générations ou les jeunes générations? Il y a une écoute, il y a une attention particulière?
Ah oui, c'est très bien reçu. Bon, on voit bien aujourd'hui, quand on regarde l'actualité qui nous accable, on voit bien que les solutions violentes en réponse à la violence, eh bien, sont totalement contre-productives, qu'il s'agisse de la guerre, bien sûr, mais aussi de bien des problèmes de nos sociétés. Et donc, quand on parle d'une autre piste qui est peu connue, donc, qui a toute une histoire, mais qui est peu enseigné, qui est peu connu, alors les jeunes sont attentifs parce qu'ils sont aussi en quête, en recherche de solutions pour leur quotidien et pour leur société. Donc moi, je rencontre vraiment un grand intérêt de la part de mes étudiants dès que j'aborde des questions de non-violence. Mais évidemment, je suis universitaire, donc j'essaye de préciser les choses parce que la non-violence souffre de certains stéréotypes, de certains contresens. On pense que la non-violence, c'est ne rien faire. On pense que la non-violence, c'est purement, purement intérieur, c'est purement spirituel. Alors, c'est spirituel, mais les non-violences sont invitées à l'incarner dans leur vie et dans la société. Et là, on rencontre un intérêt chez les jeunes parce qu'ils ont ce souci-là aujourd'hui, dans le monde tel qu'il va, ou plutôt tel qu'il ne va pas. On se dit, s'il y a une solution peu connue et qui a déjà donné des résultats tout à fait conséquents dans l'histoire, eh bien, autant la creuser.
Merci, mais c'est justement ce que l'on va faire dans cette série d'entretiens que l'on commence aujourd'hui. On aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour poursuivre cet échange. Je rappelle que vous êtes pasteur, professeur de philosophie à l'Université protestante de Strasbourg. Encore merci et donc à la semaine prochaine. Vingt ans après le prix Nobel de la paix remis à l'avocate iranienne Shirin Ebadi, une autre iranienne, militante pour la défense des droits humains, a reçu ce prix vendredi 6 octobre à Oslo. Il s'agit de Narges Mohammadi, journaliste, 51 ans. Elle a reçu le prix Nobel de la paix pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous. Elle est emprisonnée. La victoire n'est pas facile, mais elle est certaine, a déclaré Narges Mohammadi depuis la prison où elle est enfermée. C'est sa fille, réfugiée en France, qui se fait son porte-voix. Un jour, nous crierons victoire avec joie et délices, avait-elle déclaré dans une vidéo avant d'être incarcérée. Ce que lui reprochent les autorités, son militantisme sans concession contre la peine de mort. Remettre en question le châtiment suprême est quasi sacrilège dans un pays ayant l'an dernier condamné à la pendaison 333 personnes. Il y a 20 ans, l'avocate Shirin Ebadi défiait le pouvoir iranien depuis Oslo en apparaissant sans hijab pour recevoir son prix Nobel de la paix. Narges Mohammadi, elle, ne pourra pas se permettre cela. La nouvelle lauréate purge depuis 2021 une énième peine dans le quartier des femmes à l'abominable prison d'Evin à Téhéran. 25 ans d'emprisonnement pour son engagement contre le voile obligatoire et la peine de mort. À deux décennies d'écart, les destins de ces combattantes se lisent en miroir. Narges Mohammadi est la vice-présidente de l'organisation fondée par Shirin Ebadi, le Centre des défenseurs des droits de l'homme. Tout en étant en prison, Narges est la porte-parole du centre. C'est la seule personne de l'organisation à être actuellement en Iran. Puisse ce prix encourager les Iraniennes dans leur résistance. Aujourd'hui, un message aux auditeurs de cette émission. Vous êtes invités chacun à laisser un commentaire, à donner votre avis, à exprimer un point de vue, à poser une question sur le site internet de Radio Présence, émission Artisans de paix. Prenez la parole, je vous répondrai à chaque message reçu. À la semaine prochaine.